pourquoi le fait divers fait-il diversion, pour reprendre la célèbre expression de Pierre Bourdieu, qui s'inquiétait, à juste titre, dans les années 90, de ce temps d'antenne que l'on dévouait de plus en plus aux histoires à sensation, un temps forcément précieux à la télévision, qui attirait notre attention sur autre chose que sur l'essentiel information. S'il y a diversion, pour Pierre Bourdieu, c'est qu'on parle de faits divers plutôt que de parler de faits importants, de faits majeurs, de faits signifiants. Le problème, c'est donc ce mot divers qui rassemble tout et son contraire, une multitude d'affaires, des traitements différents, des récits qui n'ont pas tous la même fonction, la même exploitation, la même récupération. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est précisément leur nom, de faits divers, qu'on désigne ainsi, Bourdieu y compris, non sans une forme de mépris. Pour le citer, c'est du vide, du rien, du presque rien, c'est quelque chose de secondaire. Ce serait une matière sans grande importance qui occuperait l'espace. À moins que la diversion ne soit pas celle que l'on croit, à moins que l'intérêt du fait divers ne soit pas qu'il se cache, eh bien, ce qu'il propage, à moins que l'on se penche sur la monstrueuse diversité de ses répercussions, qui est précisément ce qui fait son intérêt. S'il fait diversion, c'est que le fait divers a la potentialité, quelle que soit l'affaire, de raisonner, de nous emmener vers une multitude d'informations incontrôlables et tentaculaires. C'est qu'il part du réel, mais pour en appeler à cette substance folle qui s'appelle l'imaginaire.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui puise dans le fait divers la matière vivante de sa littérature. Depuis son livre sur l'affaire Soulac, il y a 8 ans, il se met en scène au gré d'enquêtes vertigineuses dans les arcanes les plus mystérieuses des affaires criminelles. Au printemps des monstres, son nouveau livre vient de paraître et se présente déjà comme l'un des événements de cette rentrée. C'est une plongée dans l'histoire de Lucien Léger, surnommé l'étrangleur, condamné, vous souvenez peut-être, pour le meurtre d'un enfant au début des années 60 et libéré après 41 ans, un texte redoutable où le monstre n'est pas forcément celui qu'on croit. Bonjour Philippe Génada.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous.
C'est
ce matin.
C'est une joie.
Au fond, que nous dit le fait divers? Tout divers soit-il, parce qu'il doit bien avoir une raison pour qu'il soit la matière de vos livres, Philippe.
Ah ben, il dit beaucoup de choses. Il est gentil, Bourdieu, mais il faut regarder plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire que le fait divers, en lui-même, évidemment, ça n'a aucun intérêt. C'est même le contraire de l'humanité. Moi, je suis fasciné par la nature humaine. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Un fait divers, c'est le contraire. C'est de la haine, de la violence, de la bêtise. Enfin, ça fait partie de la nature humaine, mais pour moi, le fait divers, c'est une porte, en fait. C'est-à-dire que c'est... Alors, quand il est dans l'actualité, effectivement, c'est exactement ce que dit Bourdieu, il n'a plus d'importance, il perd sa fonction de porte, ou c'est juste une porte qu'on voit passer, parce qu'il passe vite dans les journaux, à la télé, ça passe vite. Quand on a la chance d'écrire des livres et d'avoir beaucoup de temps, on peut ouvrir la porte et aller voir derrière, et pour moi, c'est simplement le fait divers, c'est un moyen d'entrer quelque part... Grâce au travail des enquêteurs et tout ça, on dispose d'une somme, d'une masse de témoignages, de rapports, de regards des gens sur la scène ou sur le suspect, ou qui permet d'aller à l'intérieur de la société, d'aller à l'intérieur des gens.
Et se propagent des ondes. Ces ondes, elles sont amplifiées par le traitement médiatique, quand même, dont on peut faire l'objet un fait divers. Dans quelle mesure réfléchir au fait divers, Philippe Génada, c'est forcément réfléchir à la manière dont on s'en empare. Et quand je dis on, je dis vous, moi, toi, les médias, les auditeurs, les auditrices de Boomerang, tout le monde.
Là, il y avait deux choses dans le Printemps des Monstres. Il y a deux choses. Il y a la manière dont on s'est emparé du fait divers, qui est importante, puisque c'est le début des années 60. C'est le début de la société d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a le mot printemps dans le titre du livre. Donc il y a le traitement médiatique qui est très important. Par exemple, c'est le premier direct, l'arrestation de Lucien Léger, c'est le premier direct négocié entre l'ORTF et la police pour que ce soit à 20h et que ça soit en direct. Malheureusement, ils n'avaient pas prévu, ça crée une émeute. Les gens qui étaient en train de manger devant leur télé voient que Lucien Léger arrive au tribunal de Versailles, ils sortent tous de chez eux. Il y avait seulement 2 policiers pour le protéger parce qu'ils n'avaient pas prévu le coup. 10 000 personnes ou 5 000 personnes qui ont failli le lyncher vraiment. Donc là, on se rend compte du pouvoir des médias. Et puis sinon, pour moi, plus personnellement, ça me permet, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a l'écho médiatique, et puis il y a tous les personnages autour qui ont l'air, a priori, quand on les regarde vite fait, tous plus ou moins anodins, innocents, sympathiques, tristes, etc., avec un monstre au milieu qui s'appelle Lucien Léger, un petit monstre simplet, comme une figurine diabolique. Et puis tous les gens autour, plus on enlève leur masque et leur peau de bête, enfin leur peau de société, plus on se rend compte que ce sont eux les monstres. Et le petit Lucien Léger, oui, devient tout petit, et autour il y a des personnages hideux.
Alors effectivement, on est au milieu des années 60, Internet et les réseaux sociaux n'existent pas, en revanche, ils existent bien aujourd'hui. Quel regard est-ce que vous portez sur la façon dont l'information est récupérée, traitée, diffusée aujourd'hui ?
Mais aujourd'hui, c'est pardon. Aujourd'hui, c'est exactement comme à l'époque, sauf que c'est plus largement diffusé. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est aussi le début de la presse populaire, France Soir, Paris Jour, Paris Presse, etc. Ils sont assez pathos, c'est-à-dire que vraiment, ils en font des tonnes sur l'affaire, etc. Aujourd'hui, c'est plus diffus. Et puis c'est rentré dans la tête des gens, les chaînes infos, les réseaux sociaux, Internet, etc. Mais ça a exactement le même effet, c'est-à-dire que l'opinion publique et les médias à l'époque ou aujourd'hui, toute cette nébuleuse déteint sur l'opinion publique qui se fait un avis. Mais je me mets dans l'opinion publique évidemment, hein. Mais on est évidemment, si on prend pas suffisamment de recul, on n'a jamais le temps de prendre le recul nécessaire. Ben voilà, on pense qu'un tel est un monstre et qu'un tel est coupable sans aucun doute, etc., etc.
La violence des réseaux sociaux, de quoi est-elle reflet, Philippe Janada, pour vous ?
Alors ça, Augustin Trapenard, mystère et boule de gomme, est le reflet de la société, j'imagine. Hier, je voulais parler d'un truc, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et alors c'est marrant parce que je viens de voir qu'il était dans les studios, dans les couloirs. Tristan Manès France, je sais pas si c'était sur France Inter ou France Info, l'autre jour je l'ai entendu dire quelque chose, je sais pas si c'est de lui, je sais rien, si c'est de lui ou s'il a repris quelque chose, il disait autrefois, mais il y a pas si longtemps, il y a 10 ans, il y a 20 ans, si quelqu'un disait la Terre est plate, ou si vous faites vacciner, vos enfants n'auront aucun bras, des choses comme ça, à un repas de famille ou dans un village, on disait, il est fou, tais-toi Robert, dans le village c'était l'idiot du village, et il dit Internet, c'est comme si on avait créé un village qui n'existait pas, on crée un village où on envoie tous les idiots du village de France dedans pour faire sa population. Et donc les gars entre eux se croisent à la boulangerie, la terre est plate, bah oui merci je suis au courant. Et si quelqu'un arrive en disant, les gars la terre est ronde et tourne autour du soleil, il passe pour un fou quoi. Et en fait internet, les réseaux sociaux, les sites complotistes, etc. a créé ça, des villages où ils sont persuadés d'avoir raison et du coup ils se survoltent entre eux, ils se confortent. Et ça, il y a 15 ans, ça n'existait pas.
Avant de vous immerger dans les années 60, Philippe Janada, quelle image est-ce que vous en aviez, vous ?
Alors, moi je suis né en 64, je suis né la veille du jour du meurtre de ce pauvre petit garçon.
Eh oui.
J'avais, je pense, la même image que tout le monde, peut-être renforcée parce que c'est la décennie de ma naissance. J'avais une image de légèreté, de frivolité, de couleur, de rock'n'roll, de jeunes qui dansent et qui s'amusent, de mini-jupes, de plein emploi, enfin vraiment...
Et pourtant, il y a quelque chose qui bascule dans ces années, irréversiblement.
Oui, mais sur le coup, quand on n'y pense pas, on a cette image colorée et légère, et en fait, quand, par la force des choses, moi je me suis baladé dans les rues de 1960 pour essayer de retracer toute cette histoire, on se rend compte que pas du tout, c'est-à-dire, moi je me suis rendu compte de deux choses. D'abord, que c'était plutôt noir, pénible, difficile. Évidemment, il y avait le plein emploi, mais on était très mal payé et viré quand n'importe quand. Il y avait des logements, mais c'était des logements insalubres, exigus, sans eau, etc. Donc je me suis rendu compte de ça, que c'était pas du tout... C'est peut-être une petite image qui est restée avec le temps, les jeunes qui s'amusent et les mini-jupes et le rock'n'roll, mais sinon, la grande majorité, c'était plutôt dans la douleur. Et puis surtout, je me suis rendu compte que c'était le bébé de notre société de maintenant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plus de différence entre 1954 et 1964 qu'entre 1964 et aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui bascule précisément le 26 mai 1964 ?
Le 26 mai 1964, il y a un petit garçon qui s'appelle Luc Taron, qui a 11 ans, qui fait une fugue. C'est un petit garçon un peu bizarre, un peu introverti. Il part de chez lui en courant à 17h45. Et le lendemain matin, à 5h du matin, il est retrouvé mort dans une forêt, dans l'Essonne, qui s'appelait la Seine-et-Oise à l'époque. Il est retrouvé mort, étranglé ou étouffé le lendemain matin.
Vous dites que vous êtes né la veille. Dans quelle mesure cette passion pour l'affaire Lucien Léger, dans quelle mesure elle a germé en vous ? Comment ça s'est passé ?
Alors moi, assez curieusement, je me suis rendu compte que pas mal de gens se souvenaient de cette affaire. Alors moi, je m'en souvenais pas évidemment, puisque c'est passé, j'avais un jour, j'étais assez peu vif encore à l'époque. Mais Lucien Léger est sorti en 2005 de prison, c'était le plus ancien détenu de France. Donc on en a beaucoup parlé dans les journaux télévisés, etc. Mais j'ai dû passer à côté, je sais pas ce que je faisais ce jour-là, mais je m'en souvenais pas. Donc moi j'ai découvert ça il y a 4 ans, ici d'ailleurs à France Inter. J'avais une émission avec Henri Leclerc, l'avocat Henri Leclerc, et qui parlait, et j'ai parlé avec lui ensuite en sortant de la maison de la radio, qui a été l'un des avocats de Lucien Léger, qui en parlait, qui a écrit un livre dans lequel il consacre 3-4 pages à cette affaire. Ça m'a intrigué, je sais pas pourquoi, c'est un truc un peu, inconscient, ça m'a intrigué, j'ai commencé à chercher, à m'y intéresser, à fouiller, puis 4 ans plus tard, me voilà dans le même studio ou presque.
Est-ce que vous essayez de démontrer, Philippe Janada, dans ce livre, je le disais en introduction, c'est évidemment que les monstres ne sont pas ce qu'on croit. Qu'est-ce que c'est un monstre ?
Oh là là, alors ça, c'est un mot intéressant d'ailleurs, parce que j'aurais pu chercher l'étymologie exacte, je ne sais pas, mais c'est un mot intéressant parce que ça peut être positif, un monstre. D'ailleurs, il y a pas mal de journaux qui parlent du livre, qui disent un livre monstre. Ça ne veut pas dire que c'est un livre atroce, j'espère. Mais un monstre, en tout cas, moi, dans le...
Mais c'est ce qu'on montre.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on montre. Mais alors, dans le sens qu'il a pris, bon, Lucien Léger était qualifié de monstre, il a dit, le titre doit son origine à une phrase que Lucien Léger a écrite, « Je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres ». Il disait « Je ne suis pas un monstre, mais je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres ». Donc évidemment, le terme employé là dans le livre désigne tous ces personnages qui sont autour de lui. Lui n'est pas un monstre, lui est un être humain un peu tordu, mais pas un monstre. Autour de lui, par contre, faut pas s'approcher.
Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de se fabriquer des monstres, Philippe Janada ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous nous racontez, au fond, la nécessité pour une société, à un moment donné, de désigner, de montrer un coupable, un bouc émissaire, une victime, peut-être sacrificielle.
Oui, c'est rassurant, et puis c'est vrai que c'est tentant, mais on en a encore aujourd'hui, les médias nous montrent des monstres ou des victimes, on les prend, on les accepte.
On en a besoin même, peut-être.
Ouais, dans l'affaire Lucien Léger, c'est particulier, il a semé la terreur pendant 40 jours, on a mis 40 jours avant de l'arrêter, il inondait les médias, les hommes politiques et la police de lettres anonymes, et il y avait une vraie terreur. J'ai rencontré hier quelqu'un qui me disait, il avait 5 ans en 1964, le journaliste que j'ai rencontré hier, il me disait qu'il a vu un type dans la rue, et le petit garçon s'est mis à hurler, c'est l'étrangleur, c'est l'étrangleur. Et il s'est réfugié dans une boulangerie. Vraiment, pendant 40 jours, il a non seulement semé la terreur, mais surtout la haine. C'est-à-dire qu'il était, c'était odieux ce qu'il écrivait. C'était vraiment, vraiment dégueulasse, moche, vulgaire, etc. Et donc quand on l'a chopé, c'est rassurant de se dire, on a attrapé le monstre, donc si on l'enlève, tout va mieux, ouais. On respire, on n'a plus peur, il n'y a plus de laideur et de sauvagerie dans le monde. On met le petit monstre dans une boîte et c'est fini.
Vous savez qu'il y en a une qu'on appelle l'étrangleuse dans cette émission.
Allons bon.
Si, elle est monstrueuse, c'est rien de le dire, c'est la culture. Et son actualité à 3 têtes et 3 jambes, que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 3 septembre ? Here we go again, la Meglam, tube glitter. Après une pause de 40 ans, le groupe pop suédois le plus célèbre de la planète a révélé hier 2 morceaux inédits titrés Don't Shut Me Down et I Still Have Faith in You. Les chansons préfigurent la sortie imminente d'un nouvel album, le 9e du groupe, mais le 1er depuis leur séparation en 82, baptisé Voyage, intégralement composé de morceaux inédits. L'opus est attendu dans les bacs le 5 novembre prochain. Ah bah, dis donc, est-ce que tu l'as celle-là ? Chabadabada ou Dabadabada plutôt. Deauville fait son cinéma. C'est aujourd'hui que s'ouvre la 47e édition du Festival du cinéma américain dans la cité balnéaire normande. Et on y attend une ribambelle d'étoiles et de films internationaux. Sous la houlette de Charlotte Gainsbourg, présidente du jury, 55 films sont au programme pendant 10 jours, dont 13 en compétition. On y verra notamment Red Rocket de Sean Baker, Blue Bayou de Justin Sean ou encore Stillwater de Tom McCarthy. Enfin, tête d'affiche du festival, Johnny Depp est attendu sur les planches dès dimanche. Grec complet, l'immense compositeur grec Mikis Theodorakis est mort à Athènes. Il avait 96 ans, figure de la résistance à la dictature des colonels. Député et ministre un temps, il était mondialement connu pour avoir composé les bandes originales des films Zorba le Grec, Z ou encore Serpico. Lors d'une vie siècle marquée par l'engagement, l'exil et la musique, il avait œuvré sans relâche à populariser bien au-delà des frontières de son pays les sonorités, danses, instruments traditionnels grecs. Respect. Enfin, écrivain français, né en 1964 à Saint-Germain-en-Laye, lauréat du prix de Flore 97 avec Le Chameau Sauvage, mon premier roman, mais aussi du prix Femina 2017, grâce à La Serve, je suis le fin limier des lettres tricolores signant des enquêtes titanesques teintées d'un humour irrésistible et d'une tendresse bourrue mais charmante. En cette rentrée 2021, retraçant l'affaire Taron dans un ouvrage monstre, on le disait, je suis le grand favori des prix d'automne présents sur toutes les listes de rentrée, celles des Inrecuptibles, de France Inter Le Point, de Télérama, de l'Obs France Culture, des échos et même du monde, je suis. Bah, je suis Philippe Janada, évidemment.
Je suis.
Bah ouais, toutes les listes, Philippe.
Ouais. C'est rarement bon signe.
Pour ce livre, Au printemps des monstres, le fruit de 4 ans d'écriture et d'investigation, une immersion dans des milliers d'archives, un livre de plus de 700 pages que l'on pourrait également qualifier de monstre comme nombre de journalistes. Dans quelle mesure un livre peut-il être monstrueux, tiens, pour vous?
Ben, déjà, s'il atteint le kilo en poids, il a été monstrueux pour moi qu'il l'ait écrit, puisqu'il a failli m'engloutir. J'ai vraiment passé, sans faire l'artiste ou je sais pas quoi, mais j'ai vraiment passé 3 ans et demi complètement immergé là-dedans, jusqu'au cou, 7 jours sur 7, mais plus que le cou, jusqu'au sommet des oreilles, 7 jours sur 7. Sur le moment, c'était extrêmement agréable, intéressant, palpitant, j'adorais faire ça. Et puis c'est quand ça s'est arrêté. Le problème, c'est quand ça s'arrête, en fait.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on se confronte comme ça, de façon si frontale, au réel, de façon si rigoureuse, si méticuleuse, que devient l'imagination? Que devient la fiction? Est-ce qu'elle a seulement place dans le récit que vous faites?
Alors, oui, elle a place. Je pense que j'ai pas beaucoup d'imagination, ou en tout cas que ça m'intéresse pas tellement de m'en servir pour écrire. Donc, moi, j'ai une sorte de pacte tacite avec les lecteurs et les lectrices, c'est que tout ce que je raconte sur l'affaire en elle-même, sur les détails historiques de l'affaire, est absolument vrai. Je n'invente rien, je n'interprète rien, je ne modifie rien, je ne truque rien. En revanche, vous avez peut-être remarqué que moi, je me balade un peu dans mon livre.
Certes.
Il m'arrive des misères. Là, je ne peux pas garantir que ce soit vrai. C'est-à-dire que là, je fais ce que je veux, c'est moi, je peux inventer si je veux.
Et puis c'est d'autant plus intéressant que dans ce livre, la fiction est partout, puisque dans cette affaire, tout n'est que littérature, littéralement. Chacun tente d'imposer sa version des faits, chacun raconte, chacun invente des histoires. Lucien Léger est le premier, d'ailleurs.
Oui, Lucien Léger. Alors dans le genre, j'ai de l'imagination et j'invente. C'est très étrange, c'est difficile d'en parler, de résumer, mais il a raconté beaucoup de choses qui paraissaient un délire complet. C'est-à-dire qu'en fait, pour expliquer, il a d'abord avoué, puis ensuite il s'est rétracté, et il a dit non, c'est pas moi, c'est Bidule. Et il a construit tout un scénario autour de ça, complètement farfelu, avec des espions chinois, le FLN, enfin c'était un scénario ahurissant.
Vous dites scénario, on pourrait dire roman.
On pourrait dire roman, tout à fait. Sauf que ça ressemble plus à un scénario, parce qu'en plus, il y a de l'action, il y a des exécutions, pistolets. Enfin bon, c'est un truc de fou. Et on se dit, ce type est fou, il ment pour s'en sortir, etc. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai trouvé, de loin en loin, comme ça, des éléments qui prouvaient que c'était vrai, en fait. Il a dit des choses vraies. Ce qui m'a stupéfié. Mais il a aussi menti, c'est sûr, et jusqu'à la fin, même quand il est sorti de prison, jusqu'au bout, il a continué à mentir, à s'enfermer dans ses mensonges. Il y a un garçon qui s'appelle Stéphane Troplin, qui a écrit un livre, Le voleur de crime, avant moi, sur cette affaire, avec Jean-Louis Vanni, qu'il a rencontré à sa sortie de prison, et qui a été son dernier et seul ami, jusqu'à sa mort en 2008, qui lui disait... Lucien, arrête de me mentir, regarde-moi dans les yeux, tu es mon ami, arrête de me mentir. Et il était lui-même pris comme dans une carapace qu'il avait construite lui-même au fil des années en prison, comme un truc monstrueux, justement, une sorte de bête, comme un cocon de mensonges dont il pouvait plus sortir.
Ça vous est arrivé à vous aussi, Philippe Génada, romancier, non, d'être victime de votre appétit pour la fiction?
Allons bon, ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mon appétit pour la fiction.
D'être victime de ça. Comme Lucien Léger.
Ah bon? Qu'est-ce qui se passe, Augustin?
Je vous pose une question. Moi.
Ah, c'est une question. Non, au contraire, la fiction m'aide. C'est-à-dire que je lis beaucoup de fiction. J'en écris pas. Mais j'en lis beaucoup, ça me repose.
Quand est-ce que vous avez commencé à écrire, d'ailleurs?
J'ai commencé à écrire assez tard, à 31 ou 32 ans, en 95.
Et vous écriviez quoi?
J'écris un roman. Avant, j'écrivais rien, j'y pensais pas. J'étais animatrice de Minitel Rose.
Oui.
J'écrivais des tests pour Marie Claire ou Elle. Quel sera votre été? Quel gourmand êtes-vous? Etc. J'ai travaillé à Voici. Je fais les potins à Voici. Et puis, par hasard, j'ai été arrêté. Donc là, j'étais victime. J'étais arrêté par la police.
Vous voyez?
Mais c'est vrai, vous aviez raison, de manière tout à fait injuste. J'ai essayé de sauver un petit vieux. Le petit vieux a perdu à moitié la boule. Il s'est retourné contre moi. Il a dit que je l'avais attaqué. J'ai été arrêté par la police. Je suis rentré chez moi, je me suis dit, je trouvais ça à la fois drôle, pathétique et consternant. Je me suis dit, je vais écrire une petite nouvelle pour raconter cette histoire pitoyable qui m'est arrivée. Je suis pas doué pour la concision, la petite nouvelle, ça s'est terminé en 500 ou 600 pages, et ça, c'était mon premier roman.
Ce qui m'intéresse, c'est que dans vos premiers livres, vous parliez essentiellement de votre vie. À quel moment avez-vous pris la décision de vous tourner vers la vie des autres?
Au moment où ma vie est devenue d'une platitude... absolument délicieuse pour moi, mais alors...
Vous n'aviez rien à raconter.
Monotonie, je n'avais plus rien à raconter vers 2010-2011. Tout allait bien dans ma vie, je passais ma vie une heure au bistrot d'en bas et un quart d'heure au Franprix pour faire les courses. Donc je n'aurais eu que ça à raconter, ou un chapitre, Alexandre a été éliminé de Koh-Lanta, c'est injuste, enfin voilà, donc plus aucun intérêt. Comme j'ai pas envie d'écrire la fiction, je me suis dit je vais arrêter d'écrire, et puis non, je me suis souvenu qu'il y avait pas mal de gens autour de moi qui existaient en dehors de moi, et donc je me suis dit je vais raconter leur vie,
les malheurs qui leur sont arrivés. Mais la question, c'est quels gens? Quels personnages, quels autres, parce que vous ne les choisissez pas au hasard.
Non, alors il se trouve que ce sont toujours des gens qui ont été mêlés à des crimes ou à des affaires judiciaires. C'est d'une part parce que ça m'intéresse en tant qu'homme, pas forcément en tant qu'écrivain, mais en tant qu'homme.
Pourquoi?
Ça me passe. Je lis les faits divers dans les journaux. Bourdieu serait pas content, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Je regarde les émissions, faites entrer l'accusé, des trucs comme ça.
Ah bah ouais.
Ça m'intéresse. Je lis des romans policiers, de la fiction pour le coup, mais ça m'intéresse. Et puis c'est surtout parce que quand il y a eu crime, il y a eu enquête, il y a eu procès, il y a eu instruction, et donc il y a archives, il y a dossiers. Au Printemps des Monstres, le dossier fait 30 000 pages, c'est 30 000 pages d'or, c'est une mine d'or pour un auteur, le travail des juges d'instruction, des enquêteurs, que je vois un peu, pas très modestement, comme mes assistants qui ont fait le boulot il y a 50 ans.
Au fond, qu'est-ce que c'est une bonne histoire pour vous, Philippe Jenada ?
Une bonne histoire pour faire un livre, vous voulez dire? Une bonne histoire pour faire un livre, moi, il y a plusieurs ingrédients. Il faut d'abord qu'il y ait une sorte de mystère, ou en tout cas des zones floues, des choses à creuser, un peu des apparences à dépasser. Et puis, il faut surtout que ça puisse, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, il faut que ça puisse se généraliser. Le fait divers en lui-même n'a aucun intérêt. En revanche, si on peut en tirer des leçons ou des regards sur la société, sur les gens, sur le fonctionnement de l'âme humaine. Il faut qu'il y ait ça. Par exemple, les serial killers ne m'intéressent pas du tout, mais alors du tout. C'est juste des fous furieux qui tuent toutes les femmes qui ont une casquette verte, quoi. Je ne vois pas, ça ne débouche sur rien. C'est bon, le type est fou, voilà. Mais un fait divers, quel qu'il soit, il y a toujours un drame, il y a toujours des passions, il y a toujours des vies ratées, des échecs, des espoirs, tout ce qu'on veut. Il y a tout ça derrière un simple coup de marteau sur la tête de quelqu'un.
Des coups de marteau, on va s'en donner, hein, Philippe, tous les deux.
Non.
Dans cette émission ici, juste après... Non pas une bonne histoire, mais une bonne chanson, tout à fait truculente et inquiétante, qui étrangement me fait penser à vous, on la doit à Tom Waits, elle s'appelle Little Drops of Poison sur l'album Brawlers, Ballers and Bastards en 2006. Vous êtes sur France Inter avec le romancier Philippe Jenada, vous écoutez Boomerang, évidemment.
I like my town with a little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world? Well, God was sleeping. You'll never get a wish from a bone. The wrong goodbye, and 100 sailors. That deep blue sky is my home, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
C'est un personnage de conte hein, qui est en face de moi, pas forcément celui qu'on croit, quelque part entre l'ogre et le petit pousset. Il a le sourire bonhomme, le cheveu court, poivre et sel, l'œil rond aux petits oignons, il dégage un calme si olympien qu'on l'imagine volontiers du haut de son nuage, alangui, une couronne de laurier sur la tête et une grappe de raisin dans la main, en train de contempler les vivants qui s'agitent frénétiquement en contrebas, tout en bagues de fiançailles, en faux diamants achetés à New York. L'écrivain Philippe Génada, invité de Boomerang pour Au printemps des monstres, cette contre-enquête, on l'a compris, sur l'affaire Lucien Léger, condamné pour le meurtre du petit Luc Taron au milieu des années 60, contre-enquête dans laquelle vous vous mettez en scène, vous le disiez, comme souvent d'ailleurs. Pourquoi vous vous mettez en scène en fait ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, pour alléger un peu son... Je raconte toujours des histoires extrêmement sordides, sinistres, noires. Et là, plus que jamais, j'ai pas envie de mettre un gros bloc gluant et nauséabond dans les mains des lecteurs. Donc pour alléger un peu, je me promène entre les lignes et puis m'arrive toujours des petites mésaventures un peu pathétiques.
Oui. Et vous disiez, et c'est intéressant, que c'est aussi là, dans ce personnage, dans votre histoire, que se joue la fiction. Quel personnage de fiction est-ce que vous êtes, Philippe ?
Ça justement, je ce qui est intéressant, c'est que on ne sait pas si ce que je raconte est vrai ou pas. En fait, c'est vrai, je vous le dis, mais parce qu'on est entre nous, mais tout est vrai. Mais ça pourrait très bien être faux. Et il y a des petits trucs faux. Là, j'ai vu un lecteur qui me dit, ça y est, après 3 semaines, j'ai cherché partout dans les rues de Paris, j'ai enfin trouvé une Jeep Renegade. Donc je sais dans quoi vous rouliez quand vous alliez faire votre enquête pour Le Printemps des Monstres. C'est faux. Je n'ai jamais conduit.
On peut le dire, c'était une Twingo.
C'était pas loin d'une Twingo, c'était une Focus.
Et ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes un personnage dans Le Printemps des Monstres à bout de souffle, colosse, en déroute, pour reprendre vos mots.
C'est
à
moi.
Cet égard, la scène qui ouvre votre livre est assez éloquente. Vous décrivez au pied de l'arbre où on a retrouvé le corps de Luc Taron, vous avez mal partout, vous toussez, vous avez un problème aux dents et en plus vous avez une gastro. Philippe, écrire un livre, quelle épreuve est-ce que c'est ?
Ça me touche. Oui, c'est souffrir, c'est souffrir.
C'est ça.
Tout va mieux, tiens, j'en profite.
C'est-à-dire que le coup de grâce, c'est la gastro, quoi.
Oui, ça c'était, j'allais dire, la cerise sur le gâteau.
Oui, bref. Non.
Et j'en profite pour rassurer, je reçois plein de mails de gens qui ont seulement commencé le livre et qui me disent comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, ta jambe, ton dos, ton trou dans la tête, etc. Tout va bien.
Je vous pose la question aussi parce que à certains moments, on a presque l'impression que l'affaire sur laquelle vous écrivez est en train d'avoir votre peau. Est en train de vous manger.
Oui, alors tout ça, je l'exagère un peu, je force le trait dans le livre, mais c'est vrai que sur le coup, ce que je disais tout à l'heure, sur le coup, j'ai pas eu l'impression que ça me mangeait, j'ai eu l'impression que ça me nourrissait, au contraire. Et puis quand ça s'arrête, mais je crois que n'importe quelle activité humaine, si on joue au ping-pong tous les jours pendant 10 heures sur 5 ans, quand on arrête, on a la main qui continue à faire comme ça, ou on, je sais pas. Donc c'est quand ça s'est arrêté que moi j'ai eu un petit abaissement comme ça. Et puis là, ça va mieux, je suis de nouveau pimpant comme un jeune homme.
Mais la jouissance, Philippe Génada, la délectation à vous emparer des faits, à vous emparer de la langue, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écrivez ?
Bah, ça me plaît, c'est mon... C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si je suis un peu schizophrène ou quoi, mais quand j'écris ce genre de livre, j'ai deux personnes différentes qui se succèdent. Il y a le type qui fait les recherches, qui enquête, qui fouille, qui creuse, j'adore ça, c'est la curiosité presque enfantine. Et puis après, tout d'un coup, il passe le relais à l'écrivain, et là, je ne pense plus du tout à rien d'autre, je fais comme si c'était de la fiction d'ailleurs, et j'écris, et c'est ce que j'aime faire dans la vie, comme un joueur de foot aime taper dans un ballon.
Ah bon ?
Moi, j'aime... Oui.
Vous êtes sûr ?
Ah bah, certain, pourquoi pas.
Bah, est-ce qu'il paraît que vous n'allez pas être écrivain ? Être écrivain, ça vous gonfle, il paraît que vous aimeriez mieux être peintre.
Ah. Alors, quelle habileté, Augustin.
Ah bah, attendez, transition.
J'aimerais bien être peintre. On leur demande rien aux peintres. Ils sont tranquilles dans leur atelier, ils peignent. Voilà, ils n'ont besoin de rien. Juste un œil, un cœur, une main. Comme disait je ne sais plus quel maître chinois ou japonais. Ils ne demandent rien, on ne leur demande rien, parfait. On ne leur demande pas d'être cultivés, éclairés, au courant de tout, intello ou sociologue. On ne leur demande pas ce qu'ils pensent des gilets jaunes, du pass sanitaire ou de Zemmour. Salaud de peintre. On a moins de chance, nous les écrivains. On nous demande d'analyser, de justifier, d'expliquer, de clarifier, d'être brillant et lucide. On attend ça de nous. On nous pose des questions en croyant qu'on a les réponses. Alors que non, bien sûr. Du coup, on doit faire semblant et souvent, on est ridicule, évidemment. Cézanne, il peint la Sainte Victoire, on ne lui dit pas qu'il ne s'est pas foulé, qu'il aurait pu inventer une montagne. Et surtout, on ne réclame pas son avis sur la déforestation ou le tourisme de randonnée. D'un autre côté, les peintres, les vivants en tout cas, tout le monde s'en fout. C'est le hic. Ils sont seuls dans leur atelier à peindre tout le temps. Nous, après le travail, on s'amuse, on fait les marioles dans les librairies ou les salons du livre. Des gens, des jolies filles, nous sourient ou nous tapotent. On rencontre des actrices et des ministres. On passe chez Trapenard. Celui qui aurait fait un bon peintre, c'est Jean-Pierre Marielle. J'ai vu un documentaire sur lui, une interview. Il était vieux juste avant sa mort, ou plutôt juste avant qu'il perde la boule. La journaliste lui faisait remarquer qu'il aurait pu avoir une carrière plus brillante, plus étincelante. Il n'aurait pas aimé davantage de premiers rôles ? Si, peut-être, mais ils ne sont pas venus tout seuls, et son truc, à lui, Jean-Pierre, c'était de ne jamais rien demander à personne. Ou une seule chose, en échange, m'emmerdez pas. C'est tout. Je veux pareil. Je veux aller chez Trapenard et me faire tapoter par des jolies filles, mais c'est tout. Pour le reste, je peux lui prendre sa devise à Marielle, qu'il laisse derrière lui. Il est mort, j'ai le droit, je prends.
J'espère que vous n'êtes pas trop emmerdé quand même, Philippe Zenada, ce matin.
Mais non, c'était un plaisir, au contraire.
C'est un plaisir, mais c'est une bonne question que vous posez. Pourquoi on s'intéresse aux écrivains ? Pourquoi on leur demande tant ? Vous savez que moi-même, étrangement, je me pose la question parfois.
Ben oui, c'est en France surtout, je pense. C'est-à-dire qu'écrivain, ça doit être intellectuel et sociologue. Et peintres, mais le bonheur, les peintres, on leur fout la paix. Mais moi, évidemment, on me fout la paix, je suis très content de tout ce qui se passe, etc. Mais, et puis, c'est simple, il suffit de dire non, je ne veux pas répondre. Si on me demande mon avis sur les gilets jaunes, c'est pas parce que j'écris des livres que j'ai un avis intéressant, en plus, sur les gilets jaunes ou le pass sanitaire.
Vous savez que votre avis sur le pass sanitaire ne m'intéresse pas du tout, Philippe Zenada.
Formidable.
C'est la raison pour laquelle je ne vous l'ai pas demandé. Je rappelle qu'au Printemps des Monstres, je viens de paraître chez Mia Les Barreaux, et qui figure évidemment dans la section France Inter Le Point, c'est un ouvrage monstrueusement ambitieux, réussi, merci à vous. Et merci à toute l'équipe de Boomerang pour cette première semaine d'enfer. Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Biot, Pierre Démé, Jean-Baptiste Dibert et Géraud Humbert qui vient de nous rejoindre et qui est parfait. Évidemment, tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, juste après ça. Sur France Inter, Clara Luciani, respire encore. Ah bah vous chantez, Sonia.
Non, c'est moi qui chante.
Ah, c'est Léa. Ça y est, elle prend le pouvoir, celle-là.
On va parler que de ça ce matin.
Ah bon ? J'écoute.
Salut Augustin.
Salut Augustin.